France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous, notre Europe est mortelle, elle peut mourir. Les informés vont se concentrer ce soir sur ce portrait plutôt alarmiste fait par le chef de l'État de l'Union Européenne. Ce matin, défense, immigration, prospérité, souveraineté, discours de lancement de campagne pour Valérie Ayer ou discours d'un président français en vue de l'agenda stratégique des 27. Quelle réaction des différentes oppositions ? Paul Barcelone du service politique de France Info était à la Sorbonne et il est là ce soir avec nous pour évoquer tout ça. Au menu également, les CRS ont-ils le droit d'intervenir dans l'enceinte d'un établissement étudiant ? On reviendra sur l'évacuation de manifestants pro-palestiniens à Sciences Po la nuit dernière. Et puis 5 euros de péage pour entrer à Venise si vous ne restez pas dormir. Première tentative au monde de ce type pour lutter contre le surtourisme et ses ravages. On parle de tout ça avec nos informés qui sont ce soir. Jérôme Cordelier, chef du service France au Point, qui est aussi l'auteur d'un ouvrage qui va sans doute nous éclairer pour notre première partie. Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. C'est chez Calman Lévy. Claire Planchard est la rédactrice en chef Information Générale du groupe EBRA. Et Bruno Cotteresse, chercheur CNRS au CEVIPOF et prof à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
1h49 de discours à la Sorbonne. Emmanuel Macron appelle donc à un sursaut des 27 pour bâtir une Europe puissance et une défense crédible. Le mot qui revient beaucoup chez les commentateurs, je vais y arriver, c'est dramatisation.
Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent, et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas.
Paul Barcelone, vous y étiez pour France Info. Ce ton, quand même.
Oui, ton presque martial, discours alarmiste, dramatisation évidemment pour Emmanuel Macron, et le moment est singulier puisqu'on est à quelques jours, un mois et demi à peine des élections européennes, le 9 juin prochain. Et ce discours était d'ailleurs attendu, ça s'est senti surtout sur la fin. D'abord un discours très long, 2 heures extrêmement dense. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'élan de fraîcheur de 2017, mais un discours qui était attendu dans son camp comme le potentiel déclic, tournant de la campagne, parce que la campagne du camp macroniste patine, il n'y a pas de liste, pas de programme. Et en termes de programme, je crois que le président de la République, ce matin, il s'y est collé avec ce discours très, très dense. Mais effectivement, le ton martial et la dramatisation des enjeux, l'extrême droite aux portes du pouvoir, l'extrême droite partout en Europe, les nationalistes qui seraient prêts à quitter l'immeuble européen sont... C'était ses mots aussi.
Et alors vous dites très attendu par son équipe de campagne, mais attention, l'Élysée dit, ça n'est pas un discours de campagne. Question que je vais poser, que je vais vous poser à tous les quatre. Au final, c'est un discours programme pour Valérie Ayer ou le discours d'un président de la République qui parle aux 27 et qui va faire des propositions en juin ?
Non, officiellement, ça n'est pas un discours de campagne. Et c'était intéressant de voir ce que disait l'Élysée avant même ces 2 heures de discours.
Mais de ce que vous avez entendu,
Macron,
c'est ça qui t'intéresse aujourd'hui.
Il va se placer. C'est au-dessus de la mêlée, c'est l'agenda de souveraineté d'un chef d'État européen, d'une France puissante, d'une France influente en Europe. Après, sur la forme, tout est discutable, évidemment, et j'entendais les Républicains, par exemple, d'Éric Ciotti cet après-midi, qui disent on va saisir l'ARCOM parce que le temps de parole est à imputer
Manon Aubry pour les filles
à Renaissance,
chose,
voilà, la même chose, de dire les frais engagés aussi par l'État sur ce discours sur l'Europe ce matin d'Emmanuel Macron sont à imputer au compte de campagne de Renaissance. Donc il y a une bataille, évidemment, sur la forme et le fond, mais je crois surtout, pour vraiment répondre à votre question, qu'Emmanuel Macron et son entourage, l'Élysée, ont fait extrêmement attention de ne pas convoquer les artifices du discours de campagne, de ne pas citer Jordan Bardella, de ne pas citer le Rassemblement National, de ne pas être en frontal, si j'ose dire, là où, à l'évidence, quelquefois, il s'est fait plaisir, passez-moi l'expression, avec quelques allusions, évidemment, à ce qui se joue en ce moment et au scrutin de 9 juin.
Mais il est un peu présent. Claire Planchard, quel regard vous avez, vous, quand on dit discours de campagne? Il y a des propositions, et puis il y a des commentaires. Discours de campagne ou discours d'un chef d'État?
Non, mais c'est toute l'ambiguïté, effectivement, de la position du président qui, depuis des mois, en fait, a énormément cadré, en fait, la stratégie de l'exécutif dans la campagne sur l'Ukraine, sur cette dramatisation de l'enjeu existentiel, quasiment, de cette élection. Dans son entourage, on disait passer d'un vote d'humeur à un vote existentiel. On voit vraiment dans cette façon de poser les enjeux, en fait, c'est une continuité. Donc, effectivement, en tant que chef de l'État, il a pris un ascendant sur cette campagne. Valérie Ayer a du mal à émerger. On a vu Gabriel Attal, en tant que chef du gouvernement, avait aussi du mal à émerger dans cette campagne. Et dans son entourage, il disait, j'arrive bientôt, vous en faites pas. Il y a l'espoir de provoquer le même déclic qu'en 2019, où la campagne de la candidate ne démarrait pas et qu'il avait réussi par son intervention, en première
Nathalie
ligne.
Loiseau, oui.
Voilà, Nathalie Loiseau, mais c'est aussi dangereux. Donc là, effectivement, on voit qu'il donne des propositions.
Mais alors justement, est-ce que c'est les propositions, en fait?
Il faut mobiliser. L'idée, c'est de mobiliser le socle de ses électeurs, en fait.
Une autre façon de se poser la question, c'est de se dire, ces propositions, parce qu'il y en a quand même une série, est-ce que on va les retrouver au cœur de la campagne de Valérie Ayer? C'est une autre façon de poser le sujet. Qu'est-ce que vous retenez comme proposition?
C'est difficile de retenir des propositions parce que, en dehors du moment où le chef de l'État a parlé d'initiatives en matière d'Europe de la défense, il y a eu beaucoup de propositions qui étaient des propos extrêmement généraux, de grands objectifs dont on sait très bien qu'ils ne pourraient être atteints que moyennant au moins une décennie, peut-être deux décennies, donc quelque chose qui dépasse même l'avenir politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est très difficile de transformer ça en proposition concrète.
Il y a quelques éléments assez concrets quand il parle d'immigration, il veut renforcer Frontex, cyberattaque,
Je me demande si le propos du discours, c'était au fond des propositions concrètes. Est-ce que le propos du discours n'était pas d'abord et avant tout de manifester un Emmanuel Macron qui revient sur la figure centrale d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire lui se situe du côté des forces de la vie contre la mort? Alors, il a beaucoup utilisé cette métaphore. L'Europe est en danger de mort. Il y a différentes morts qui peuvent être, qui concernent l'Europe. La mort violente avec la Russie, la mort lente avec le déclin. Voilà, différentes figures. Et Emmanuel Macron qui se met toujours, d'une certaine manière, en position d'être celui qui est du côté de l'énergie, de la renaissance. C'est le nom de son mouvement politique. Force de proposition, audace, celui qui a fait preuve d'audace avant tout le monde. Tout le monde disait c'était impossible. Et finalement, lui, il est arrivé à le faire. Est-ce que c'est pas ça le propos essentiel du discours, de faire renaître Emmanuel Macron d'une certaine manière dans ce deuxième mandat qui a tellement de mal à trouver sa direction, et au passage peut-être d'aider Valérie Ayer en impulsant quelque chose du point de vue de ceux qui sont très sensibles à cette figure d'Emmanuel Macron, le sauveur.
La renaissance d'Emmanuel Macron, c'est une piste ouverte par Bruno Cotterêts, Jérôme Cordeli. Vous nous direz ce que vous en pensez juste après le fil info de 20h11. Stéphane Milhomme.
Kenji Girac a voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne. C'est le procureur de Mont-de-Marsan qui le confirme. Le chanteur blessé par balle déclare assumer ce qu'il a fait tout en le regrettant très fortement. Le soir des faits, il était fortement alcoolisé. Il avait consommé de la cocaïne. L'annulation d'une condamnation d'Harvey Weinstein est profondément injuste. C'est un groupe de victimes qui le dénonce aux États-Unis. La justice de New York souhaite un nouveau procès. Dans tous les cas, le producteur de cinéma déchu reste en prison. Et pour 16 ans dans une autre affaire de viol, cette fois à Los Angeles. Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte face à la Russie, déclaration du chef de l'OTAN, à condition que les Occidentaux tiennent leur promesse de lui fournir davantage d'armes. Et pour Jens Stoltenberg, ces derniers mois, les alliés de l'OTAN n'ont pas apporté le soutien qu'ils avaient promis. Il y a 50 ans au Portugal, la révolution des œillets mettait fin à 48 ans de dictature et 13 ans de guerre coloniale. Les célébrations interviennent dans un contexte marqué par une nouvelle percée électorale de l'extrême droite au Portugal.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Claire Planchard est là pour le groupe Ebra, Bruno Cotterès pour le Cevipof, Jérôme Cordelier pour Le Point et Paul Barcelone pour France Info. Jérôme Cordelier, vous avez la main. Bruno Cotterès proposait la renaissance d'Emmanuel Macron plus globalement. Vous retenez quoi de ce discours? Qu'est-ce qui vous frappe?
C'était un discours, c'est pas inintéressant. Hein. Je trouve que c'était un bon article pour la revue politique internationale. Vous voyez, ouais. Il y a plein de choses. Souvent, en plus, ce qui est un problème maintenant de communication, surtout chez un homme aussi brillant que Emmanuel Macron, c'est qu'il dit des banalités en prenant un air inspiré, quoi. Donc ça, c'est à mon avis, au point de vue communication.
Vous avez un exemple
c'est...
en tête, enfin.
Même, par exemple, quand il parle des grandes puissances à nos portes, voilà, qui sont débridées et qui ne respectent pas les ordres du monde, enfin des choses comme ça. Donc, et puis surtout, le gros problème, je trouve, c'est que c'était un discours sans âme. Et donc, c'est un discours sans âme. Donc, c'est un discours qui n'a aucun souffle, qui n'est pas inspiré, justement. Et quand on parle d'Europe, et surtout quand on dit, par exemple, il dit « Notre Europe est un trésor que nous avons reçu en héritage et que nous allons transmettre », mais il ne parle jamais d'abord, il dit constamment « Notre Europe ». Notre Europe, vous savez, c'était le titre du livre posthume de Robert Schuman, qui est un des pères fondateurs de l'Europe, auquel d'ailleurs...
Qui n'apparaît pas, pour autant.
Qui n'apparaît pas, d'ailleurs, Alors, on cite George Steiner, Camus, Jacques
Paul
Delors,
Valéry, non,
que des personnalités un peu consensuelles, si vous voulez. Mais on parle de notre Europe pendant près de 2 heures, et on parle même pas, il n'y a pas un mot sur les fondateurs de l'Europe, Assis de Gasperi, Konrad Adenauer et Robert Schuman, qui ont été quand même l'inspiration. Avant Jacques Delors, il y avait ces gens-là, quoi. Et qui sont quand même le socle de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui avec la CECA. Et donc, c'est ça le problème, et c'est le problème d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois et un temps incertain, c'est le manque total d'inspiration. Et puis,
il y a pourtant une séquence presque philosophique sur nous sommes la civilisation qui a sans doute inventé le doute et le questionnement sur soi, la culture de l'aveu. Il essaie de prendre de la hauteur.
Mais comment peut-on parler, par exemple, de l'humanisme européen sans faire, justement, ne serait-ce qu'une allusion à ces fondements chrétiens de l'Europe qui ont été... Enfin, je veux dire, dans les 4 fondateurs de la CECA, il y avait 3 chrétiens, 3 catholiques investis. Et donc,
ça compte, important. Ça, pour vous,
bien
cet aspect chrétien. C'est le sous-titre de votre livre. Hein, après
c'est l'armature, l'armature de l'Europe. On peut se voiler la face, mais on peut au moins l'évoquer dans un discours que l'on veut un peu, un discours fondateur. Et en plus, ça aurait du panache. Il n'y a pas une seule fois le mot « âme ». Je veux dire, il cite Jacques Delors ou George Steiner, il aurait pu citer aussi Georges Bernanos. Enfin, je veux dire, ce qui est quand même aussi un écrivain fondamental de l'Europe et de l'âme de l'Europe.
Paul Barcelone ?
Oui, il a tenté de donner une âme, je crois, à son discours en appelant à une forme d'audace. Bon, qui était probablement aussi destiné à son propre camp et une manière, Claire le disait tout à l'heure, de réveiller aussi son camp, de provoquer un sursaut dans son camp, de mobiliser ses supporters.
Est-ce que ça peut être le cas ? On parlera du contenu hein, dans
en
un
tout
instant.
Cas, ce qui est sûr, c'est que ce discours, c'est le coup d'envoi pour les troupes d'Emmanuel Macron de la campagne et il suffit de décrocher son téléphone, d'envoyer 2 SMS à des conseillers ou à des ministres ou à des élus de tout poil pour dire « ça y est, il nous a donné le go ». On a presque une ébauche de programme, on n'en avait pas jusqu'à maintenant. On attend toujours la liste, mais ça y est, la campagne peut-être démarrer. Et au moins, il a jeté les bases de ce à quoi ça doit ressembler. Et d'ailleurs, il va continuer, même indirectement, de faire campagne. Parce que la séquence mémorielle qui arrive, des commémorations du débarquement avec 3 jours de discours, 5, 6, 7 juin, va évidemment lui offrir une tribune qu'aucun autre candidat n'aura.
Claire Planchard, sur ce démarrage de campagne, est-ce que c'est... Parce que quand on parle d'audace, c'est aussi...
D'audace pour vaincre la timidité, il manquait
ouais,
un mot.
Oui, c'est ça. Mais Valérie Ayer, je ne sais pas comment elle a pris ce message.
C'est un message implicite.
Oui, après, les sondages le montraient, même récent, Valérie Ayer a du mal à émerger. Les gens ne l'identifient pas. Alors effectivement, elle va faire des meetings. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce poids de la figure présidentielle sur le camp de l'exécutif, hein, sur cette liste Renew, qui fait qu'elle avait du mal, la liste était effectivement pas constitué. Ils ont tardé, il y a eu des atermoiements, c'est au moment du remaniement pour trouver une figure qui allait incarner cette liste. Donc effectivement, là, ça peut effectivement lancer une dynamique avec une séquence de communication très orchestrée. Donc ça peut, et puis je pense que ça envoie un message. L'idée, c'est de dire, vous, électeurs pro-européens macronistes, regardez, nous restons fidèles à ce que Emmanuel Macron incarnait très fortement en 2017 avec son discours de la Sorbonne 1, c'est qu'il se veut fondamentalement pro-européen, avec un projet très construit. Il a fait valoir son bilan aussi, hein, quand même, sur les choses qu'il a pu accomplir. Alors, effectivement, l'Europe est loin d'être soudée. Enfin, il dit notre Europe, aujourd'hui, on voit les clivages très forts, mais il peut amener peut-être, enfin, je pense que c'est son souhait d'amener des électeurs qui pourraient être tentés par la liste Glucksmann, des gens qui auraient été déçus ou qui auraient été un peu désintéressés par la campagne, de se dire, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là du programme qu'on avait aimé en 2017, en 2019 pour les européennes, mais en 2017, au moment de la présidentielle.
Bruno Cotrès, il y a matière dans ce qu'on vous a entendu ce matin, à aller chercher, à élargir un peu le socle actuel, les 12, 13, pardon, non, les 17, parce que c'est Raphaël Glucksmann qui est plutôt à 13, les 17% actuels, et notamment des abstentionnistes.
Un peu, bien sûr. Alors, mais le propos en même temps est tellement général que pour aller hameçonner, attirer à nouveau des électeurs de centre-gauche déçus d'Emmanuel Macron, ça va être quand même un peu compliqué. Il y a une autre dimension qui fait quand même une grande différence avec la précédente élection européenne de 2019. Emmanuel Macron maintenant est en poste depuis 7 ans. Et donc lorsque des électeurs de centre-gauche, il y en a toujours dans son socle. Il n'a pas complètement perdu tout crédit auprès des électeurs de centre-gauche. Mais effectivement, quand il le regarde maintenant, ça n'est plus comme en 2019. Il a eu l'occasion de les décevoir. Il y a eu la réforme des retraites. Il y a eu le débat et la loi sur l'immigration. Il y a eu les déclarations récentes sur les chômeurs, sur ceux qui occupent des logements sociaux. Enfin voilà, tout un tas de signaux qui n'ont pas été nécessairement bien reçus dans un électorat de gauche. Donc c'est un peu compliqué de les faire revenir à nouveau, sans compter qu'ils connaissent très bien l'engagement pro-européen du chef de l'État, qui n'est nullement une surprise aujourd'hui pour personne. Voilà, donc il n'y a pas aujourd'hui dans les contenus quelque chose qui concrètement peut venir faire revenir des électeurs de centre-gauche.
Alors, en lien avec cette idée que l'Europe est mortelle, il y a ce gros sujet de la défense qui est très présent, Paul Barcelone. On va pas dire qu'il y a pas de surprise absolue. Il y a la volonté de construire une Europe de la défense, mais d'aller plus loin, d'aller plus vite. Ça, c'est quand même très présent.
Ouais, l'Élysée disait la Sorbonne, c'est le lieu où Emmanuel Macron a eu en 2017 une intuition, là où il a parlé de souveraineté, où il a osé parler de souveraineté pour la première fois. Et d'ailleurs, son entourage revendique le fait d'avoir maintenant complètement diffusé cette idée de souveraineté et qu'elle soit désormais reprise assez largement dans la classe politique, au-delà d'ailleurs du seul camp d'Emmanuel Macron. Oui, l'essentiel des propositions concrètes qu'il a formulées aujourd'hui, une dizaine au total, se situe sur le plan de la défense, avec la volonté d'imposer une défense crédible, de rendre de la souveraineté, que l'Europe produise de la poudre, pourquoi pas un bouclier antimissile, il dit peut-être sur le bouclier antimissile. Donc il y a la volonté, à l'évidence, de construire cette espèce d'arsenal militaire. Il dit pourquoi pas créer une académie militaire européenne.
Un emprunt commun.
Pour acheter du matériel, se fournir en armement. Donc il y a la volonté pour Emmanuel Macron que l'Europe soit une forme de puissance sur le même pied d'égalité que les États-Unis, que la Chine d'un autre côté, dans le contexte géopolitique qu'on connaît, la guerre en Ukraine, les menaces sur Israël, l'Iran qui se situe au seuil de la possession de l'arme nucléaire, évidemment. Tout ça alors que, et c'est son expression, les règles du jeu mondial ont changé.
On se demandera peut-être juste après le fil info pour comment ça a pu être perçu par les partenaires européens de la France, parce qu'il se place de fait au cœur du débat sur une problématique qui concerne évidemment les 27. 20h21, le fil info, c'est Stéphane Milhomme.
La production de vin a chuté de 10% l'an dernier dans le monde. En cause, les viticulteurs ont souffert de la sécheresse, des vagues de chaleur, du gel précoce ou lors des pluies qui ont favorisé inondations et maladies. La récolte chute en Italie, moins 23%. La production en France progresse légèrement, plus 4%. La France qui devient de loin le premier producteur de vin au monde. Santé aussi, chez Airbus, l'avionneur européen voit son chiffre d'affaires décoller de 28% au premier trimestre à près de 600 millions d'euros. Le groupe a augmenté sa cadence de production et a pu livrer une douzaine d'avions commerciaux de plus que l'an dernier à la même époque. Vladimir Poutine affirme qu'il se rendra en Chine le mois prochain, visite officielle, alors que les Occidentaux s'inquiètent d'un partenariat toujours plus fort entre les deux puissances. Et puis, on ne veut pas perturber la vie des gens le moins possible, promesse de Laurent Nunez aux Parisiens. Le préfet de police a précisé aujourd'hui le déroulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet. Les contrôles de sécurité aux abords de la Seine commenceront 8 jours avant la cérémonie d'ouverture.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec ce soir Jérôme Cordelier du Point, Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotrès du Cevipof et Paul Barcelone de France Info. On va parler de défense et on va notamment écouter parmi les réactions François-Xavier Bellamy, la tête de liste à droite, qui réagissait sur ce point précis, l'investissement dans une industrie de défense. Écoutez.
Nous devons investir ensemble dans une industrie de défense qui permette de faire que notre continent soit demain plus robuste et plus autonome pour assurer sa sécurité. Et c'est d'une certaine façon exactement le contraire qui aura été fait. J'ai été rapporteur pour le Fonds européen de défense qui permet de mutualiser des investissements dans l'industrie de défense. Le budget de ce fonds devait être de 13 milliards d'euros. C'est par la décision du gouvernement français au Conseil que ce budget a été diminué à 8 milliards d'euros. Ce coup de rabot, c'était évidemment le signe d'un manque d'ambition. Je suis, moi, révolté par la contradiction entre les paroles qu'on entend aujourd'hui d'Emmanuel Macron et les actes.
C'est vrai que c'est assez représentatif des critiques qui ont été faites. Et tout ce qui a été promis depuis 7 ans, il en resserre une partie et les faits ne sont pas là, Bruno Cotrès.
Oui, c'est vrai que les références étaient...
Sur la défense, c'est
voilà,
c'est
les frappant. References étaient multiples. Aujourd'hui, du chef de l'État, son discours de la Sorbonne de 2017. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu de près les choses, parfois, il a un peu exagéré, on va dire, sa force et sa capacité à réaliser un certain nombre d'objectifs. On peut penser à la régulation de l'intelligence artificielle, par exemple, même aux questions écologiques. Et sur la défense, c'est vrai que c'est en même temps un thème sur lequel le chef de l'État a toujours été assez clair. Il a toujours affiché une forte ambition en matière d'Europe, de la défense, et non plus pas du tout une surprise de l'entendre sur ce thème-là. Par contre, c'est vrai que ce que François-Xavier Bellamy dit est avéré, ça met un peu le chef de l'État en porte-à-faux, et surtout du point de vue du regard que les Européens portent sur le discours d'aujourd'hui, il faudra voir comment il l'interprète, puisque la position de la France est souvent perçue comme évidemment très importante. Lorsque le chef de l'État français parle de l'Europe, les autres Européens écoutent toujours avec beaucoup d'attention. Mais est-ce qu'ils vont pas avoir tendance à dire c'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est des paroles? Raphaël Glucksmann hier l'a taclé sur cette question-là en disant ça sera encore une fois des paroles. Parce que c'est comme ça que les partenaires allemands vont le vivre, notamment, ça sera très important de suivre quelles vont être les réactions des exécutifs européens et notamment de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne.
De ce qu'on a vu passer, le chancelier Scholz dit les pistes sont plutôt les bonnes.
Oui, il dit il y a plutôt de bonnes propositions dans ce discours. Maintenant, il faut que ça trouve, en clair, je résume le message du chancelier, il faut que ça trouve sa traduction concrète sur l'Europe de la défense. C'est un pis-aller, enfin, c'est pour Emmanuel Macron, c'est une vieille rengaine, d'ailleurs de plusieurs couleurs politiques, pas seulement lui, et effectivement, il y avait déjà fait référence en 2017. Ce qu'il dit ce matin, c'est que trop longtemps, l'Europe a cru bon de laisser sa protection et la sécurité dans les mains, notamment des Américains, de l'OTAN, et qu'il est temps aujourd'hui d'assumer une défense européenne robuste, propre, que l'Europe soit capable en elle-même de défendre ses propres frontières, ce qui rejoint toute la tirade du chef de l'État sur l'Europe continent-monde, capable de se défendre par elle-même et capable d'être souveraine chez elle. C'est en ça qu'il propose, je disais référence tout à l'heure, une académie militaire de formation, un emprunt commun, pour construire vraiment l'arsenal militaire de défense.
Dans autre réaction qu'on va écouter, Manon Aubry, tête de liste LFI, sur le décalage aussi, alors pas sur la défense, mais sur notamment sur des aspects sociaux plutôt, entre les mots et les actes, écoutez.
C'est une Europe de l'arrogance et une Europe des inégalités plutôt qu'une Europe puissance et prospérité qui nous a présenté. Il a utilisé en effet plein de fois le mot puissance Et il a finalement déploré pendant 2 heures les effets de l'impuissance qu'il a construite depuis 7 ans, depuis son dernier discours de la Sorbonne. Pardon, mais sur la question de la puissance, quel est le bilan d'Emmanuel Macron? Ces dernières années, ce sont des industries, des usines qui ferment. Et dans le même temps, il signe à tour de bras des accords de libre-échange avec le monde entier pour faire venir des produits des quatre coins du monde. Moi, j'ai le sentiment vraiment qu'à la fin, Emmanuel Macron, c'est un menteur. C'est une forme d'arnaqueur, un peu comme sur Tinder, l'application de rencontre. Il vous fait des belles promesses, et puis une fois qu'il a réussi à vous avoir, il disparaît.
Vous êtes d'accord, au-delà de la formule sur Tinder
Non, c'est trop, Jérôme Cordelier. C'est trop sévère. C'est pas que des belles promesses. C'est quand même un discours programme aussi. Hein. Moi, ce que je déplore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque d'inspiration, le manque d'âme.
La puissance, oui.
Et que tous les gens les millions de gens qui ne vont pas aller voter, quand on leur propose un discours comme ça, un discours politique comme ça, c'est sûr que l'abstention sera encore plus forte. Mais en même temps, il y a aussi quand même un côté programmatique, sachant qu'en plus, c'est difficile. Il est sur une ligne de crête difficile, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a le bilan et puis il faut lancer sa campagne. Donc, il est évidemment tributaire de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Et en même temps, il faut qu'il... En fait, le problème de ce discours, c'est l'angle, en fait. C'est comme un papier pour un journal.
Il n'y a pas d'angle, c'est ça?
Il y a trop d'angle, en fait. Il y a trop de public. C'est-à-dire, il s'adresse aux électeurs, il s'adresse aux 27. Il y a un bilan. Il y a la construction de l'avenir. Donc, tout ça fait un discours fleuve et un discours rubiscube, en fait.
Alors, ça s'appelle un papier fourre-tout. Hein.
Voilà. C'est ça. Et on embrasse notre rédacteur en chef.
C'est l'ADN. L'Europe fait partie de son ADN, et je rejoins ce que disait Jérôme. L'Europe fait partie de son ADN depuis 2017. En 2017, déjà, il y avait des drapeaux européens qui flottaient dans ses meetings, etc. Il a toujours voulu se poser en figure européenne. Et en même temps, pour paraphraser Jérôme et uniquement Jérôme, sa campagne, elle ne décolle pas, et ses électeurs, aujourd'hui, ils sont plutôt aux abonnés absents. Donc il y a une forme de paradoxe pour lui à résoudre, et c'est pas certain que le discours de ce matin, qui était quand même pas très grand public, suffise à combler ce retard-là.
Dans les opposants, il nous reste 30 secondes pour dire un mot quand même de Jordan Bardella, parce que évidemment lui aussi a programmé un discours sur l'Europe, une conférence de presse cet après-midi, sauf que ça, alors c'est un peu bizarre, ça s'est terminé
alors, conférence
un peu
de
en queue de poisson, très court, il n'a même pas répondu aux questions.
Non, et il a fait lui aussi son discours sur l'Europe, avant une session de questions-réponses avec des journalistes. Il y avait Audrey Tison du service politique de France Info qui m'a raconté ça, et puis Jordan Bardella est parti avant même de prendre la moindre question, laissant la parole à Alexandre Loubet qui est député et son directeur de campagne pour ces européennes, qui lui-même a été interrogé par Audrey Tison, à qui il a dit écoutez, Emmanuel Macron, ce matin, à la Sorbonne, il n'a pas répondu à des questions, il n'a pas pris de questions. Eh bien, Jordan Bardella n'en prend pas non plus. Et ce sera très bien comme ça. Jordan Bardella qui participera enfin à un débat sur les élections européennes dans une dizaine de jours. C'est une manière peut-être de clore le débat.
Bon, eh ben on l'écoutera évidemment avec attention. Merci beaucoup, Paul Barcelone.
Avec plaisir.
Nous, on va refermer cette page européenne. On ira faire un tour à Sciences Po et puis à Venise, après le point sur l'info, puisqu'il est 20h30. Et bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Les accusations contre lui sont à l'origine de la déflagration MeToo. Harvey Weinstein voit l'une de ses condamnations pour viol et agression sexuelle annulée par une cour d'appel new-yorkaise. Elle estime que le procès de l'ancien producteur américain n'était pas équitable. Un nouveau procès devrait se tenir. Harvey Weinstein reste en revanche condamné à Los Angeles à 16 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Les oppositions dénoncent la participation directe d'Emmanuel Macron à la campagne européenne. À quelques semaines du scrutin, le président de la République a dressé un bilan plutôt noir de l'Union, estimant qu'elle peut mourir depuis l'université de la Sorbonne à Paris. Il a appelé à un sursaut des 27 pour bâtir une Europe de la défense crédible, avec notamment un bouclier antimissile. Emmanuel Macron demande également de revoir les normes environnementales et sociales qui handicapent, selon lui, la croissance économique. 3 vols sur 4 annulés à Orly, plus de la moitié à Roissy, à peine mieux dans les aéroports en région. Grosse pagaille en pleine vacances scolaires aujourd'hui. Pourtant, Le principal syndicat de contrôleurs aériens a levé en dernière minute son préavis de grève après un accord trouvé avec la Direction Générale de l'Aviation Civile. Mais trop tard, les compagnies aériennes n'ont pas pu revoir leur plan de vol. Kenji Girac s'est tiré dessus, il a voulu faire semblant de se suicider pour inquiéter sa compagne qui menaçait de quitter le chanteur devenu addict à l'alcool. C'est le récit dressé par le procureur de Mont-de-Marsan quelques jours après la blessure grave de l'artiste. Et puis 21 ans les séparent, jamais l'écart d'âge n'a été aussi grand entre deux adversaires sur un court de tennis et c'est le plus expérimenté Rafael Nadal qui a battu un très jeune américain de 16 ans, Darwin Blench, victoire facile en 2-7, 6-1, 6-0 au Masters 1000 de Madrid.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Jérôme Cordelier du Point, Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotresse du Cevipof. On parle donc des CRS dans un établissement étudiant, c'était hier à Sciences Po. Évacuation de 70 étudiants dans le calme, sans incident, dit la préfecture de police. Une cinquantaine avait quitté les lieux, dit également la préfecture, les lieux d'eux-mêmes. Une dizaine de tentes avaient été installées dans la cour par le comité Palestine de Sciences Po pour dénoncer la situation à Gaza. La direction dit, elle, dans un communiqué, avoir craint un début de tension, ce qui choque évidemment ces étudiants qui étaient de retour à la mi-journée, toujours à Sciences Po, et qui a rencontré Thomas Séchier pour France Info.
Il y avait 20 camions de CRS comparé à un événement qui était pacifique.
C'est quand même honteux de voir que la police puisse rentrer dans une institution universitaire.
C'était une action tout à fait pacifique. Vu les vidéos, il n'y avait pas d'émeutes, il n'y avait pas d'incitation à la haine, je pense.
Voilà, alors on a évoqué plusieurs fois les manifestations, la conférence de Jean-Luc Mélenchon qui a donné lieu à des affrontements en début de semaine. Mais là, envoyer la police sur des lieux d'études, une ligne rouge est franchie par la direction de Sciences Po, c'est ce que dit Inès Fontenelle qui est élue de l'Union étudiante. Est-ce que vous êtes d'accord, Bruno Cotresse ?
Il faut rappeler d'abord qu'il y a des règles. On n'est pas dans une société qui est sans règles de ce point de vue-là. C'est-à-dire la police ne peut pas intervenir d'elle-même dans un établissement d'enseignement supérieur. Ça, c'est juste pas possible. Si elle intervient, ça va être souvent à la demande du président de l'université. Quand celui-ci considère que deux paramètres sont directement au fond sensible, à la fois la question de la sécurité de l'ensemble des personnels qui sont sur un site, étudiants, personnel académique, personnel qui participe à la vie d'un établissement d'enseignement supérieur, donc la question de la sécurité, la question de l'ordre public, on va dire les choses comme ça, ou menace sur la liberté académique directement, liberté d'enseigner, de faire de la recherche. Donc c'est pas du tout quelque chose qui peut être fait comme ça sans règle du jeu. Si une occupation a lieu d'un bâtiment universitaire, le président de l'université peut demander au préfet la prise d'un certain nombre de mesures qui peuvent être effectivement le recours à la force publique. Il y a la saisine possible d'un juge administratif. Donc voilà, tout ça n'arrive pas hors de toute règle.
Oui, il y a un cadre légal clair.
Voilà, évidemment, comme toujours, la tension et la difficulté habituelle, c'est la combinaison de la liberté d'expression qui est reconnue par le code de l'éducation. Et puis de la sécurité qui est tout aussi reconnue par le code de l'éducation.
Il y a un autre texte moi, que j'avais relevé, le juridique de la conférence des présidents d'université, qui dit que le président d'université peut être tenu d'une obligation d'intervention pour garantir l'ordre public dans des circonstances graves. Et là, la question, c'est de savoir si on était dans des circonstances graves, Claire Planchard.
Oui, et c'est le débat qui se porte alors, dans un autre cadre juridique dont je ne suis pas spécialiste, mais aussi aux États-Unis, puisque les étudiants de Sciences Po se sont eux-mêmes appelés d'une solidarité avec ces mouvements qui ont lieu notamment à Columbia.
On est manifestement assez loin de ce qui se passe sur le
campus. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des échanges universitaires avec Columbia et certains étudiants de Sciences Po ont dit que voilà, ils étaient en lien avec eux et que c'est vrai que c'était un mouvement de manifestation qui s'inscrivait un peu dans ce qu'on voit aujourd'hui, aux États-Unis, où les forces de l'ordre aussi pu intervenir. Et c'est vrai que quand on écoute les uns et les autres, notamment aussi des associations étudiantes juives qui participent à ces sit-ins, à ces campements, et elles expriment le fait qu'il n'y a pas d'antisémitisme.
Pas les mêmes.
Voilà.
Pas les mêmes campements, mais.
Voilà, mais voilà qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Enfin, on voit la difficulté, en fait, comme vous disiez, dans ce contexte, à essayer de discerner, d'un côté, la ligne rouge de la légitimité de cette intervention de défense de l'ordre, et puis, effectivement, est-ce qu'on est sur une libre liberté d'expression, ou est-ce qu'il y a l'expression au contraire de propos antisémites, racistes, d'appels à la haine? Enfin, c'est extrêmement compliqué. On voit qu'il y a toute une séquence dans le monde universitaire, que ce soit lors d'intervention de politique ou l'intervention, ou justement la venue un peu inopinée de Gabriel Attal dans Sciences Po qui a suscité de l'émoi, parce qu'en fait on est là sur la liberté de, on est dans des lieux où on débat, on est dans le rationnel, l'échange de pensées, et on se rend compte que ce climat est tellement tendu, clivant, que même ces lieux qui sont des lieux d'un certain élitisme intellectuel, il y a des crispations qui font que on n'arrive pas à voir en fait.
Est-ce que la pression qui a été mise effectivement sur cette direction, qui en plus a changé plusieurs fois, et ça c'était juste après la démission de Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po, est-ce que tout ça explique peut-être que la direction de Sciences Po ait donné le feu vert, parce que c'est elle qui autorise les forces de l'ordre à rentrer dans l'établissement. Est-ce que c'est cette pression-là qui est alors excessive ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Le problème, c'est qu'il faut remettre de l'ordre à Sciences Po. Alors c'est sûr que c'est malheureux de le faire ainsi, mais le problème, c'est que c'est une école. Je regarde ça en tant qu'ancien élève de manière un peu désolée, quoi. Enfin, c'est terrible ce qui se passe à Sciences Po. Enfin, pardon de parler sous le regard sourcilleux de Bruno Cotterêts.
On est si sûr qu'il y a besoin de remettre de l'ordre. Je veux dire, des manifs à Sciences Po, que ce soit déjà, des étudiants politisés, ça a toujours été le cas.
C'est quand même Sciences Po par avolo, hein, sans faire de mauvais jeu de mots.
Là, vous parlez de la direction.
De tout l'ambiance qu'il y a à Sciences Po, c'est-à-dire que c'est devenu une espèce de l'image qui est projetée de Sciences Po à l'extérieur, c'est une espèce de cours des miracles, un capharnaüm de maison qui n'est plus du tout tenue, quoi. Ça pose un problème.
Hein. Je me demande si le propos n'est pas exagéré.
Non, mais c'est ça. C'est pas globalement les commentaires qu'on a. Il y a eu, et il s'agit pas de les minimiser. S'ils ont existé, cette fameuse manifestation, etc.
Regardez la réputation de l'établissement.
Là, oui, je voudrais faire juste deux observations. La première, c'est pas vraiment ce qu'on vit à l'intérieur de l'établissement Sciences Po, qui est, comme dans toute université, on a été étudiantes les uns et les autres. On a déjà vécu, évidemment, des moments de mobilisation, de contestation, d'occupation, de grève, etc. Mais en interne, c'est pas du tout, effectivement, ce tableau
apocalyptique. Mais moi, je parlais du rayonnement de l'établissement.
Du rayonnement, et par ailleurs, la direction de l'établissement, tout au long de l'automne, depuis le 7 octobre, a beaucoup communiqué en interne sur le respect des principes cardinaux de la vie à Sciences Po, c'est-à-dire le respect de l'autre, les arguments de la raison, l'échange académique, et la direction de l'établissement a multiplié les communications à l'adresse des personnels, des enseignants, quelle conduite tenir.
Mais c'est pas l'image qui est renvoyée.
Oui, c'est pas l'image qui est renvoyée.
C'est ça le problème. Le problème, c'est la réputation de l'établissement, l'image, voilà. Ce que ça donne comme image avant un établissement qui était élitiste et qui maintenant a une
mais qui l'est toujours. On est là aussi pour essayer de tirer justement le vrai du faux dans cette image-là, Jérôme. Au-delà effectivement des moments qui ont été très médiatisés, mais qu'en est-il réellement? Enfin, c'est intéressant d'entendre effectivement Bruno Cotterêts.
La réalité, c'est qu'effectivement, c'est une grande université internationale de recherche et d'enseignement qui vient d'obtenir un classement très élevé parmi les universités mondiales pour l'enseignement et la recherche dans le domaine de l'analyse politique en particulier, et un établissement où les chercheurs comme moi, dont je suis, ne souffrent nullement d'aucune restriction académique sur la possibilité de faire leurs enseignements et de faire leurs recherches en toute liberté de ce point de vue-là. Et le fait qu'il y ait des tensions, ça concerne sans aucun doute d'autres établissements universitaires. C'est vrai que Sciences Po fait l'objet de beaucoup d'un focus et d'une attention extrêmement forte. C'est un établissement assez prestigieux, assez renommé.
Comment vous expliquez ça? Parce que c'est l'école qui a formé bon nombre des dirigeants du pays.
C'est une école qui forme un bon nombre de dirigeants du pays, dont sont issus de nombreux membres du gouvernement, de la haute administration. Donc forcément, tout ce qui s'y passe a un effet, une résonance extrêmement importante. Mais voilà, je tiens à dire vraiment que la direction de l'établissement a beaucoup communiqué en interne sur le fait de respecter les principes cardinaux de la vie académique, et notamment la tolérance vis-à-vis de l'opinion des autres, le respect des grandes valeurs académiques qui sont le cœur de notre métier.
20h41, le Fil Info, Stéphane Milhomme.
Les cliniques privées prêtes à fermer leurs portes entre le 3 et le 5 juin. Elles sont toujours en guerre avec le gouvernement sur leurs tarifs pour 2024. La Fédération de l'hospitalisation privée réclame à l'État une enveloppe de 500 millions d'euros pour le privé bénéficier de la même hausse que l'hôpital public. Emmanuel Macron appelle à un sursaut à moins de 2 mois des européennes. Le chef de l'État met en garde contre la mort de l'Europe et appelle les 27 États membres à un sursaut pour bâtir une Europe puissante et une défense crédible. La tête de liste insoumise, Manon Aubry, dénonce à travers cette prestation à la Sorbonne une privatisation des moyens de l'État au profit de Valérie Ayer, la tête de liste macroniste au scrutin du 9 juin. Elle le dit sur France Info. Et puis l'hommage sur France Info de la comédienne Marina Foïs à la disparition de Laurent Canté. Le réalisateur avait 63 ans. C'est quelqu'un qui parlait vraiment du monde et qu'il habitait. Il avait décroché la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour son film Hors les murs.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bruno Cotresse est là, chercheur CNRS au CEVIPOF, Claire Planchard, rédactrice en chef information générale du groupe EBRA, Jérôme Cordiolier, chef du service France au point. Et on part à Venise, comme promis. Alors, ce péage pour visiter Venise à la journée, c'est une première mondiale. C'est une expérience, en l'occurrence, qui vise à endiguer le surtourisme et ses nombreuses dégradations. On va écouter l'adjoint au tourisme de Venise, donc Simone Venturini.
Le but de cette mesure, c'est de décourager les visiteurs ces journées-là et ça les incitera à venir à Venise à d'autres périodes moins fréquentées et donc de créer moins de stress pour la ville ces jours-ci.
Voilà, quand il dit ces jours-ci, il faut préciser que 29 jours de grande affluence sont concernés, en gros les week-ends de mai à juillet. 5 euros par touriste depuis ce matin. À la mi-journée, les comptes qu'on avait, c'était 13 000 billets qui avaient été vendus. Voilà, j'essaie d'être complète. Et une amende de 50 à 300 euros pour les contrevenants qui n'ont pas le fameux QR code qu'il faut télécharger contre les 5 euros sur le site internet. Payer pour rentrer à Venise, comme ça, est-ce que ça vous choque?
Moi, non.
Jérôme Cordelier.
Non, ça ne me choque pas. Enfin, je veux dire, Venise, c'est un musée à ciel ouvert. 5 euros, 29 jours par an. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas se faire plus zélé.
Plus le principe qu'autre chose, Bruno Cotresse.
Non plus. Je trouve que...
Notre débat va être vite terminé.
Voilà, il y a le coût d'entrée à Venise existe déjà. Les parkings qui sont à l'entrée de la ville sont déjà assez pas mal payants. Effectivement, 5 euros de plus sur le budget de tourisme à Venise, ce n'est pas beaucoup. Après, effectivement, la question, ça va être comment est utilisé la collecte de cette taxe, on va dire. Est-ce qu'elle est faite pour préserver Venise? Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est un musée à ciel ouvert. C'est la preuve que l'être humain a pu faire des choses absolument inouïes, d'une beauté...
Mais justement, enfin, ce sont des espaces... Rentrer dans un musée, c'est une chose, et Dieu sait qu'il y en a à Venise. Visiter une ville... c'est quand même un pas. C'est pas rien, quoi, Claire Planchard.
Oui. Après, c'est surtout l'efficacité de la mesure qui est assez décriée, parce que comme vous avez dit, c'est sur une trentaine de jours dans l'année. Il y a beaucoup d'exemptions pour les jeunes. Il y a pas mal de choses, et c'est surtout que ça permet effectivement de réguler, de se dire que notamment les gens qui n'habitent pas très loin dans la province, voilà, peuvent venir à d'autres moments que dans ces moments où il y a forte affluence. Mais quand on parle de surtourisme ou surfréquentation, de tout l'impact que ça a sur la vie des Vénitiens, qui sont la population se réduit, parce qu'en fait les principaux, cette commune ne cherche pas à lutter contre le tourisme. L'aéroport va s'agrandir, les capacités hôtelières s'agrandissent. Alors effectivement, les croisiéristes doivent rester un peu en dehors de la ville, mais en revanche ils ont des ambitions sur le tourisme. Là, en fait, tous les experts, on a fait un dossier ce matin dans les quotidiens du groupe EBRA, disent en fait ça va être très peu efficace en fait pour lutter contre le surtourisme. En revanche, effectivement, ça va peut-être permettre de réguler un peu les flux. Et tout le monde dit que si on ne s'attaque pas au logement, notamment au Airbnb, au logement meublé, enfin qui font que les habitants ne peuvent plus payer leur loyer, quittent la ville et deviennent une ville musée. En fait, c'est ça. En fait, le symbole de payer un ticket, c'est aussi le symbole d'une ville qui devient un peu un Disneyland, un parc d'attractions, et qui n'a plus son âme avec ses vrais habitants, sa vraie activité. Donc sur le fait que voilà, qu'on demande effectivement à payer voyez, je trouve pas ça choquant dans l'absolu, mais l'efficacité, en tout cas, pour lutter contre un tourisme de masse, c'est très, très... En tout cas, le montant n'est pas suffisant pour être véritablement dissuasif. Effectivement, la question de l'utilisation de cette somme sera intéressante, mais c'est pas ça qui va vraiment dissuader des gens qui ont fait tout ce chemin pour venir là. Et en tout cas, quand on voit que l'aéroport grandit et qu'il y a vraiment des ambitions touristiques dans cette ville, c'est un peu... Le message est un peu ambigu.
Hein. Juste pour avoir les ordres de grandeur, c'est 50 000 habitants au centre-ville aujourd'hui, 100 000 touristes dorment à Venise, en plus des dizaines de milliers
voilà,
qui viennent pour la journée.
Ça ne concerne pas les gens qui dorment, donc en fait, il y a une ambiguïté. Alors,
Bruno Cotterêts,
il y a, une autre commune, alors je n'arrive plus à me rappeler, qui avait en projet, je ne sais pas si ça a été fait,
dans le coin là-bas,
d'interdire que les touristes, en particulier ceux qui logent dans du Airbnb, n'utilisent des valises à roulettes, compte tenu du fait que...
Du bruit ?
Voilà, le bruit, et que les résidents se plaignaient de ne plus tout simplement pouvoir vivre sans ce bruit de ces roulettes qui heurtent les pavés. Et donc on voit qu'effectivement, il y a peut-être un sujet un tout petit peu plus large, qui est ces sites européens très 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 touristiques, et d'essayer non seulement de protéger ces sites, mais peut-être effectivement de rendre la vie des habitants plus facile.
Il y a quelque chose d'assez paradoxal de mon point de vue d'ailleurs, et peut-être que vous pourrez nous éclairer sur la protestation justement des résidents. Parce que quand vous parlez du bruit, ça peut paraître anecdotique, mais c'est ce débarquement de touristes journaliers, moi j'aurais imaginé qu'il serait assez favorable à ce qu'on le filtre. Jérôme Cordelier, non ?
Et c'est pas le cas ?
Ben non, c'est pas le cas. Ça protestait aujourd'hui beaucoup, et tous les reportages montraient une colère des résidents.
Oui, non, c'est vrai que c'est curieux. Oui.
Mais vous alliez dire, vous vouliez...
Non, je voulais juste dire, non, mais sous forme de boutade, je voulais dire, le problème de tout ça, c'est que ça va donner des idées peut-être à Anne Hidalgo, quoi.
C'est-à-dire
de mettre un péage à l'entrée de Paris et de faire payer l'entrée de Paris historique.
Alors, est-ce que c'est comparable ? Là, juste pour rester sur un instant sur Venise, mais on viendra à Paris après, mais parce que Venise, c'est les dégâts du surtourisme. On a compris depuis des années tous ces processus, ces procédés qui sont mis en place pour essayer de freiner les vagues, des ferries qui arrivent. Enfin, c'est des sommes colossales qui sont... Il y a cet enjeu-là, quand même. Là, il y a une compensation pour les dégâts, en fait, de ce surtourisme.
Bien sûr. Sur un site qui est un site qui est potentiellement menacé. Donc effectivement, c'est pas du tout la même chose que les villes comme Londres aussi, qui ont adopté un principe de péage à l'entrée pour essayer d'endiguer la circulation automobile dans le cœur de la ville. À Venise, tel n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de circulation automobile au centre de la ville. On est obligé de laisser sa voiture à l'entrée dans les grands parkings qui sont à l'entrée de la ville. Après, on a ces toutes petites ruelles, les fameuses petites cales de Venise qui sont tellement extraordinaires. Mais
et qui ne sont pas forcément surchargées, parce qu'en gros, ils sont tous sur la place Saint-Marc ou sur les lieux très touristiques. Peut-être c'est un autre enjeu, ça, Claire Planchard.
Dans les propos des associations locaux, là, pour répondre sur ce que vous disiez, en fait, ce qui proche, c'est d'utiliser un levier qui quelque part aussi enfreint la liberté de circulation, mais surtout est inefficace. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la régulation des locations touristiques. Mmh. Ils disent notre ville prétend agir, mais n'agit pas. Ils veulent des mesures encore plus fortes et ils estiment que ça ne suffira pas, alors que ça les privera d'une circulation, pour revenir là-dessus.
C'est-à-dire, il faut les empêcher de loger sur place.
Limiter, comme certaines villes en France le font. C'est-à-dire qu'on a ça à Saint-Malo, l'île de Ré vient de prendre des mesures, c'est de limiter en fait le nombre de logements touristiques qu'il peut y avoir. Alors, il y a des quotas par commune pour que, effectivement, ça ne dépasse pas un certain seuil pour ne pas avoir surfréquentation et puis surtout que les gens puissent continuer à se loger, puisqu'on sait que l'impact que ça a sur le prix de l'immobilier.
20h50, on poursuit à Venise après le fil info. Stéphane Milhomme.
Nous savions qu'Harvey Weinstein n'avait pas eu droit à un procès équitable. C'est son avocat qui le déclare, alors que la justice à New York demande un nouveau procès dans l'un des dossiers. Mais le producteur déchu de cinéma reste en prison, condamné pour 16 ans pour viol à Los Angeles. C'est volontairement que Kenji Girac s'est tiré dessus, affirmation du procureur de Mont-de-Marsan. Et 24 heures après l'audition du chanteur blessé par balle, Kenji Girac déclare aux enquêteurs avoir voulu simuler un suicide avec son arme pour faire peur à sa compagne. Pologne qui menaçait de le quitter. Il dit regretter son geste. La France juge inacceptable la condamnation à mort du rappeur Tomaj Salehi. Le chanteur iranien de 33 ans avait apporté son soutien à la contestation de la jeunesse de septembre 2022. Il est en prison depuis maintenant un an et demi. Depuis aujourd'hui, Venise est la première ville touristique au monde à faire payer un droit d'entrée, 5 euros pour chaque visiteur, comme dans un parc d'attractions. En pic de fréquentation, 100 000 touristes dorment dans la cité des Doges. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont présents chaque jour.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On se penche sur le surtourisme, sur la façon de le réguler, de le limiter, d'en limiter les dégâts. On est avec Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotrez du Cevipof, Jérôme Cordelier du Point, que des gens qui adorent Venise, évidemment, lieu magnifique. Alors, il y a eu des tentatives qui ont été faites par différentes villes, Saint-Sébastien et Barcelone, par exemple, limitent les groupes à une vingtaine de personnes. Et je crois qu'il n'y a pas de haut-parleur pour les guides. Au Mont Fuji, au Japon, cet été, il va y avoir un quota pour emprunter le sentier, le fameux sentier qui mène au Mont Fuji. Je dis fameux, je n'y suis pas allé, mais bon, le plus populaire en tout cas, et avec 12 euros pour accéder. Enfin, il y a différentes façons, mais une ville, encore une fois, ça n'est pas commun. Vous faisiez le parallèle, Jérôme Cordelier, avec Paris.
Oui, non, mais enfin, c'était une plaisanterie, c'est-à-dire...
Ah bah non, mais voilà, si vous le dites, vous le dites.
non, mais c'est vrai que comme Anne Hidalgo a souvent des idées, comme ça, donc... Bon, il y a déjà eu, de toute façon, la question du péage à l'entrée de Paris. Hein,
mais pas forcément pour les touristes.
Non, pour tout le monde. Et donc, si on se met à faire ça, ça peut donner, réveiller de vieux fantômes.
Ça, on est où, ça c'est quelque chose.
Moi, je crois que c'est, pour l'instant, c'est encore... Enfin, c'est dans les limbes.
C'est de toute façon pas le moment avec les JO, évidemment, mais... Claire Planchard.
Oui. On a des petits enjeux de transport et de fréquentation, oui. Non, mais c'est sûr qu'on parle en fait de surtourisme, mais c'est la régulation des flux. Il y a des lieux qui sont en sous-tourisme, qui auraient besoin en fait d'avoir des visiteurs, des gens qui viennent, et c'est ce que font beaucoup de régions. C'est-à-dire, vous êtes tous attirés par exemple, les falaises d'Étretat, mais sachez qu'on a une côte magnifique à côté, et que si vous voulez ensuite aller visiter le reste de la région, c'est très intéressant. Il y a des villes qui ont fait des partenariats avec Waze pour que au Mont-Saint-Michel, cette heure-là, c'est infréquentable. Venez plus tard ou allez à tel endroit auparavant. Et c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives. Au Mont-Saint-Michel, il y a des navettes qui sont régulées, il y a moins de navettes. On a beaucoup parlé des calanques entre Cassis et Marseille. Il y avait un problème, mais vraiment une atteinte à la nature. Ils ont instauré un système non pas payant, mais de réservation et de quotas qui fait que régulièrement, les gens désormais sont moins nombreux. La nature reprend ses droits. C'est un lieu préservé qui va. Mais on est évidemment avec les réseaux sociaux, il y a un marketing autour de destinations qui sont très très séduisantes. Je crois que c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui disait que 95% des touristes vont sur 5% des territoires émergés. En fait, il y a une concentration des touristes dans des lieux d'un intérêt, bien sûr, très intéressant, mais il y aura intérêt à ce que la population aille à d'autres endroits, à d'autres horaires. Il y a même des gens qui disent pourquoi pas des visites la nuit de certains sites, pour qu'il y ait moins d'affluence et que, le patrimoine, que ce soit historique ou naturel, ne soit pas détérioré par cette fréquentation.
Tout le monde est désolé de voir les détériorations. Comment vous expliquez? Quels sont les freins? C'est quoi? C'est des enjeux économiques? C'est des enjeux... politique aussi, ils n'ont pas forcément envie, si on reprend Venise, depuis le temps que, encore une fois, depuis des décennies que c'est un problème, ils n'ont peut-être pas envie de fermer la porte et de...
Non, donc, c'est impossible.
Bruno Cotrez, comment vous...
Bien sûr, c'est impossible. C'est à la fois les paradoxes d'un monde incroyablement ouvert. Depuis 20 ou 30 ans, les possibilités de se déplacer pour aller visiter le reste du monde se sont démultipliées de manière fantastique. Et en même temps, ça a créé de nouveaux comportements potentiellement difficiles pour la préservation des sites, la préservation de la nature, la préservation de la planète. Et on voit toutes ces contradictions. On a pensé, par exemple, qu'un des legs du Covid, ça serait de baisser le nombre de voyages en avion. Et puis on voit que les chiffres des compagnies aériennes sont revenus...
Sont repartis à ce qu'ils étaient.
Donc il est très difficile d'expliquer aux populations que nous vivons dans un monde ouvert avec des fermetures. Au fond, c'est un peu ça le problème. Donc il faut agir sur les deux autres leviers. Le levier de la quantité, effectivement, limité. On voit effectivement sur des côtes françaises qu'on est obligé effectivement là aussi de limiter, d'empêcher que les gens même se mettent en danger au bord des falaises. Et puis la question de la qualité, c'est la répartition dont parlait Claire Planchard, qui est qu'effectivement de ne pas avoir cette surconcentration sur quelques lieux touristiques emblématiques. C'est un enjeu très important du développement d'un tourisme de qualité dans des parties des pays qui sont moins exposés. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer partout et tout le monde en grand centre touristique. Ça serait alors là un autre effet complètement pervers de ça. Mais on voit, voilà, c'est le paradoxe de ce monde complètement ouvert et en même temps qui doit de ce fait-là davantage protéger ses sites et sa nature.
Ça peut être un symbole, Venise, un déclencheur de quelque chose. Quand même, ça va marquer les esprits, quoi. Si Venise y vient à cette question du surtourisme, est-ce que ça peut déclencher quelque chose de façon une prise de conscience un peu plus large?
Après Venise, Rome, puis après tous les lieux touristiques, voilà. Mais bon, après, il faut aussi éduquer les gens. Ça, c'est un vaste programme. Éduquer les gens à la protection et puis à garantir la beauté, quoi.
Voilà, ce qu'il faudrait pas, c'est que ça commence à 5 euros et que dans quelques années, le tarif soit multiplié par 4, 5. Parce que là, ça poserait d'autres problèmes qui seraient le problème d'un filtrage social. Parce que si on est une famille de 4, 5 personnes, 5 euros, ça peut commencer à représenter. Par contre, si ça devenait 10 euros, 15 euros, là, ça va être un problème.
Mais si on part dans la fiction, on pourrait se dire aussi, il ne faut pas que ça devienne comme la grotte de Lascaux. Si vous voulez, maintenant, la grotte de Lascaux, il y a 4 grottes de Lascaux et la dernière donc, est numérique et complètement virtuelle.
Il faudrait une reconstitution.
Et donc, il ne faudrait pas une Venise virtuelle qui soit à 10 km du Venise réel qui deviennent accessibles.
Allez, dites-nous ce qui fait la une du Point cette semaine.
La une du Point, c'est une grande interview, longue interview passionnante de Elisabeth Badinter, qui sort un nouveau livre, voilà, qu'a interrogé longuement Valérie Toragnan, la directrice de la rédaction du Point, donc sur homme-femme, la défiance. Voilà. Le livre d'Elisabeth, j'allais dire Robert, d'Elisabeth Badinter, c'est Messieurs, encore un effort, 3 petits points.
Le vôtre de livre, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. Je le rappelle, c'est chez Calman Lévy. Claire Planchard, la une des grands quotidiens de l'Est de la France, du groupe Ebra demain.
Et on va parler de l'exploitation du lithium en France, a-t-elle de l'avenir, puisqu'on en a parlé. Le code minier a été simplifié pour essayer d'accélérer ça, et ça concerne les zones du groupe Ebra, donc on revient dessus.
Merci à tous, merci à Bruno Cotresse du CELIPOF. Demain, les informés, c'est à 9h avec Jean-Rémy Baudot et Renaud Dely. Nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.